RMC.
Bounce card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Bang! Arnaud Valadon.
Salut à tous, bienvenue pour Basket Time, spécial playoff NBA Euroleague. On va débriefer les premières tendances, projeter aussi sur les séries à venir avec une belle équipe aujourd'hui pour parler NBA et Euroleague. Nous sommes avec le seul basketteur de la Terre qui défend Nico Harrison, le GM de Dallas. C'est monsieur Stephen Brun. Ça va Stephen?
Ça marche. Ça marche, je m'entends pas. Ça va ou quoi, les
ça
amis?
Ça va, très bien.
Ah ouais. Nico Harrison m'a régalé hier en conférence de presse. Je savais pas que Lucas était apprécié de la ville de.
En compte qu'il aurait traité.
Pour tout le monde.
Il aurait traité Dirk Nowitzki hein, il y a 20 ans.
Mais il savait pas. Ouais.
Pour la défense.
Parce que pour la... Ouais, parce qu'il défendait pas.
Ouais. Oui, tu vois.
Là, tu sais que Dirk est pas. C'est désolidarisé de tout ça. Il est plus supporter des Mavs, hein, Dirk. Il est supporter de Wurzburg.
Son club voilà, originel. Le seul basketteur de la Terre à avoir participé à Tout le monde veut prendre sa place, le jeu sur France 2, c'est Fred Weiss.
Oui, alors je pense pas être le seul, mais oui, effectivement, j'y ai participé.
T'as pas pris la place, par contre.
Ah, non.
Non. J'ai découvert ça, je pensais que c'était une blague.
Si, non, moi.
On avait trafiqué ta page Wikipédia, parce que ça arrive.
Complètement vrai.
Et c'était quand?
J'adorais ce jeu.
C'était avec Nagui.
2011.
C'était Nagui. Hein.
Oui, c'était 2011, je venais d'arrêter ma carrière, je m'ennuyais un petit peu, donc voilà, je trouvais ça cool.
Et tu avais échoué, c'était Georges Brassens.
C'était Georges Brassens, c'est exactement, ce qui n'est pas ma tasse de thé, malheureusement.
C'était une bonne expérience.
C'était les copains d'abord, pourtant.
Oui, c'est ça. Mais justement, je me suis fait avoir sur ça, tu vois.
Et c'était bien, toi.
C'est super. Nagui est très gentil.
Voilà. Et il sera dans Motus la semaine prochaine.
Alors, on voit que tu travailles. Motus, ça n'existe plus.
Ça n'existe plus,
non. Ça n'existe plus. Et la roue de la fortune, si tu veux, le big deal.
Le big deal, oui, bien sûr. Big deal, évidemment.
Nous sommes avec le troisième membre de cette Dream Team, le seul journaliste basketteur de Cholet de la rédaction, Félix Gabory.
Salut tout le monde. Cholet, quelle équipe encore cette année? Là, on attend le mois de mai, va être incroyable. Là.
Oui, ouais,
je crois que c'est en train un peu de faiblir, non?
On connaît le mois de mai. Allez,
demain, ça économise les forces, j'aime beaucoup.
La patte Le François, là, c'est un peu plus dur, hein, mais bon. Ah,
ça va le faire, ça va le faire. Moi, je suis serein.
Bon, écoute, on souhaite.
Ça dépend de ce que t'attends. De quoi?
C'est quoi? T'es serein pour faire quoi?
Laisse-les venir. Je vous sens taquin avec Cholet.
Non, mais moi je te sens un petit peu flou dans tes explications, surtout.
Bon, demi-finale, on signe, c'est très bien pour la saison.
Exactement. Là, c'est top 4 en demi-finale.
Tant que vous jouez pas Le Mans, votre bête noire.
Exactement.
Évidemment. Les playoffs NBA avec les derniers résultats de la nuit de lundi à mardi, les premières tendances à l'est, à l'ouest. Et exceptionnellement, pas de partie historique, on va parler d'Euroleague. Parce que ça démarre aujourd'hui avec nos deux clubs français, Paris Basketball et Monaco. Peuvent-ils aller au Final Four? Le quiz mélange actu, NBA et Euroleague. C'est parti pour Basket Time, épisode 230.
Let's get ready to rumble!
Halliburton, out to Siakam, he's lonely. Hits the tray. On looking at both sides and at the defense. Finds Lopez for the alley-oop. Halliburton working on Portis. Pull up. Got it.
And Carroll drives, gets inside. Scoop layup, gets it to go. Porzingis up top to White. Long three-pointer. That's good. Boston Celtics, in their quest for back-to-back titles, take their first game of these 2025 playoffs.
Cunningham, race to the rim. He finishes with the offhand. Kate Cunningham is going on. And that's it. The Pistons end the longest losing streak in NBA playoff history. Win their first postseason game since 2008.
Mitchell, just lethal.
And that right there is why you call him the Spider.
Mitchell catch and shoot as he pulls from deep. The Cleveland Cavaliers, the number one seed in the East, begin their postseason bid.
Mec, c'est encore plus long que les bandes annonces.
Quand tu vas au cinéma,
c'est encore plus long que.
Ah, mais moi j'ai les poils, c'est les playoffs, c'est le moment que l'on attend depuis le début de la saison, généralement. Voilà, on y est avec cette nuit Détroit qui est allé gagner au Madison Square Garden 100-94. Dennis Schroeder clutch avec un gros tir à 3 points dans le Money Time. 20 points pour Denis Lamalisse. Kate Cunningham, 33 points, 12 rebonds. Un petit Karl Anthony Towns à 10 points, 6 rebonds. Et les Pistons qui égalisent un partout dans cette série. Désormais, direction Détroit. Et surtout, ça fait depuis 2008 que Détroit n'avait pas gagné un match de playoff. Il s'était fait sweeper 3 fois depuis 2008. Et cette défaite en finale de conférence Est face à Boston. Ça relance tout ou pas, Stephen, cette victoire des Pistons?
Oui, ça relance beaucoup de choses. Déjà, ils n'étaient pas très loin lors du match 1, ils se sont écroulés sur le 4e.
Un gros blowout.
21-0.
21 ou 23-0. Donc, mais le match 1 était plutôt cohérent pour Détroit, pour une équipe qui découvre ce stade de la compétition avec une équipe très jeune. Et hier, je les ai trouvés bons. J'ai trouvé Kate Cunningham en mode patron. Qu'est-ce qu'il a été fort dans la percussion. Il a provoqué des fautes. Il est allé sur la ligne des lancers francs. Et puis, le banc de touche de Détroit, ben, ce n'est pas une surprise. Il est bien meilleur que celui des Knicks. 35-8 au scoring. Dennis Schroeder, 20 points. Paul Reed qui met quelques paniers. Bisley qui ne fait pas un match exceptionnel. Mais mine de rien, il met de temps en temps quelques bons tirs qui font du bien. Les Pistons dans la continuité de leur belle saison. Et les Knicks, trop de up and down. Brunson fait du Jalen Brunson, mais à côté, le supporting cast passe au travers. Passe au travers à Anunoby, Josh Hart, Karl Anthony Towns. Trop faible pour espérer battre un collectif. Et le collectif des Pistons, pour moi, est très, très intéressant sur ce début de série.
Alors, on sait que Détroit est séduisant vraiment cette saison. Superbe équipe. On a loué Fred aussi. Enfin, on a pointé du fait que Tom Thibodeau, il a passé sa saison à jouer à 6 ou 7 joueurs uniquement. Détroit a reposé un peu Kate Cunningham fin de saison régulière. Est-ce que là, il n'y a pas tout simplement aussi une équipe qui est plus fraîche physiquement?
Moi, je ne pensais pas que ça. Vraiment, je pense qu'il joue vraiment très, très bien au basket. Moi, ce qui m'a surpris, c'est justement de faire défendre Tobias Harris sur 4. Ça m'a surpris au départ, parce que normalement, j'imaginais que Jalen Duren allait défendre sur lui. Sauf que 4, comme il s'écarte tellement que mettre un petit sur lui, c'était plutôt un bon choix. Et chaque fois qu'il pénétrait, ça fermait complètement la peinture, ce qui l'a coupé complètement du jeu. Et Tobias Harris a été bon des deux côtés pour moi. Jalen Duren, c'est un monstre physique. Kate Cunningham, on en a parlé, ça a été incroyable. Les bons choix à chaque fois, cette capacité de percussion. Je l'ai trouvé un petit peu en dedans sur les 2-3 premières minutes. Et puis après, il a pris la mesure complètement du match. Josh Hart, il ne met pas un tiers. Tu peux faire défendre Jalen Duren sur lui. À un moment, c'est trop compliqué. On en a parlé, Anunoby passe à côté. Il y a trop de joueurs qui passent à côté du côté de New York. Mis à part Brunson, je n'ai pas vu grand-chose. Si, Mikal Bridges qui a été plutôt très bon, mais c'est à peu près tout, quoi.
Tom Thibodeau se plaint des coups de sifflet qui n'ont pas été donnés à Brunson en disant « si vous les donnez à Cunningham, il faut les donner à Brunson ».
Je ne sais pas si vous avez vu ce match, mais moi je trouve qu'au contraire, il y a des moments où j'ai trouvé l'arbitrage plutôt en faveur des Knicks que l'inverse. Donc, je pense qu'ils ont tort de se plaindre. Enfin, Tom Thibodeau a tort de se plaindre.
Et c'est jamais bon hein, quand tu commences à être frustré au bout de deux matchs sur l'arbitrage.
Exactement.
C'est
tu as joué deux fois chez toi.
Tu cherches des excuses. Et Stephen l'a dit tout à l'heure. S'il n'y avait pas eu ce 21 ou 23-0, maintenant j'ai le doute, dans ce quatrième carton, je pense que Détroit aurait pu gagner aussi. Donc ça veut dire qu'ils sont deux fois au Madison dans le match. C'est une équipe qui ne correspond pas du tout à New York, qui les embête beaucoup, qui a beaucoup de fraîcheur physique, d'énergie, et le banc beaucoup plus solide, évidemment.
C'est vrai que les Knicks, en fait, ils pourraient se retrouver à 0-2. Et on ne créerait pas un scandale, Félix.
Ouais, mais malgré tout, je comprends l'emballement de Fred et Stephen sur Détroit. C'est une meilleure équipe, c'est sûr, collectivement. Mais en termes d'individualité, je les vois mal aller en prendre 4 contre les Knicks. Même si les Knicks, ils ont quand même beaucoup de limites. Et je pense que les limites des Knicks seront affichées dès le deuxième tour contre Boston.
Oui, mais il faut que les...
Mais non, là, je pense quand même
qu'en fait... On pense juste que des mecs doivent se réveiller. Anunoby, il met pas un panier.
Ouais, moi, je suis pas en train de te dire que Détroit va sortir
les Knicks. On l'aurait dit un petit peu, mais...
Non, parce que je pense que New York est capable d'aller en prendre un à Détroit aussi.
Niveau de jeu, quoi.
Mais enfin, je pense que New York va aller gagner un match à Détroit. Mais le problème, c'est que là, t'as perdu l'avantage du terrain. Même si sur cette série, je suis pas sûr que l'avantage du terrain il soit prépondérant pour se qualifier au deuxième tour. Mais
en plus,
mais...
New York, ils sont partout chez eux. Enfin, on sait que...
Oui. Il y a la diaspora new-yorkaise partout aux États-Unis. Mais ce qui est inquiétant, c'est que, en fait, les Knicks, j'ai du mal à dire si c'est vraiment une bonne équipe, en fait. Je ne sais pas si c'est une bonne équipe.
Non, collectivement, c'est une mauvaise équipe.
Moi, je déteste les regarder jouer parce que c'est affreux, en fait. C'est affreux, c'est Jalen Brunson qui monte la balle et qui fait tout de A à Z et que c'est peut-être le seul joueur, et on l'a déjà pointé du doigt, qui est à la création. Ils n'ont pas d'autres créateurs dans cette équipe-là. Et à Détroit, il y en a quand même, Ken Cunningham, il y en a d'autres capables de Dennis Schroeder. Moi, je lui donne la malice, ça fait 15 ans.
Super
avec Fred.
Coup, hein.
Super coup, ça fait 15 ans qu'on le suit avec Fred. On sait qu'il n'a jamais su s'imposer dans une équipe, mais quand tu l'as et qu'il sort du banc, tu sais que des points, il va en mettre, il est clutch, il aime bien ça avec l'Allemagne, c'est lui qui est le go-to guy de l'équipe, donc des tirs importants, il en a pris toute sa carrière internationale. Et c'est un deuxième créateur de jeu. À New York, c'est très stéréotypé. Le basket, alors quand ils mettent dedans et que Karl Anthony Towns est en feu et Brunson aussi, ça change la face de l'équipe. Mais s'il y a un mec du 5 majeur qui passe au travers, les Knicks sont en danger.
Est-ce que Thibodeau, c'est le coach typique d'il y a 15 ans qui n'a pas évolué?
Ah, sauf qu'il évolue pas beaucoup, hein, pour le coup.
En fait, il a toujours cette gestion de son 5 majeur où effectivement ça change pas beaucoup. Mais est-ce que tu dirais ça s'il passe et s'ils vont en finale de conf,
bah, tu vois, parce que non, mais bah, après je te parle sur l'évolution depuis qu'il est là dans cette équipe.
L'évolution
la façon...
de la gestion des joueurs, non. Même si Michael Bridges avait dit qu'il lui avait parlé et qu'il voulait que le 5 majeur soit un peu moins utilisé. Mais si tu regardes un peu le match, il a fait des rotations un petit peu avant d'habitude. Donc je pense qu'il essaye d'évoluer.
Après, c'est vrai que le banc, là, tu vois, au Knicks.
Precious Achiuwa.
Mitchell Robinson, qui voilà, a été blessé la moitié de la saison. McBride, Payne, qui joue 4 minutes. Landry Shamet, 5 minutes. Ah, c'est pas.
Non, c'est très limité, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que le 5 majeur et le talent individuel 5 majeur suffira, je pense, pour passer ce tour-là. Et après, du coup, pour la suite, ça va être très compliqué. On sait ce qui arrive avec les Celtics juste derrière. Et jamais ça peut aller très loin. On le voit très bien que cette équipe n'en est pas une collectivement. Et c'est pas une équipe qui est bien construite et qui est en plus pas très bien coachée. Donc ça fait quand même beaucoup de défauts quand même.
Qui est le meilleur joueur entre Kate Cunningham et Jalen Brunson?
Bah pour l'instant, c'est Brunson, mais pour le coup, Brunson, moi, j'avais très hâte aussi de voir ce que ça allait donner sa première campagne de play-off.
Je pense que tu as répondu un peu vite.
Je pense que Cade...
que tu as répondu un peu vite.
Ah ouais?
Ouais. Parce qu'en fait...
Les courbes sont peut-être en train de s'inverser.
Le truc, c'est que si tu raisonnes individuellement, oui, je pense qu'il peut t'apporter plus. Mais je pense qu'il y en a un qui implique plus ses coéquipiers. Il y en a un qui joue plus collectivement. Et si on me demandait de faire une franchise maintenant, moi, je réfléchis pas, hein.
Ah ouais. C'est
prend plus de rebonds, fait plus de passes.
Il y a un meilleur passeur que l'autre déjà.
Pour impliquer tout le monde.
Après, Brunson est tellement fort.
Je suis pas en train de te dire qu'il est pas fort.
À l'instant T, je prends encore Brunson. Mais après, du coup, Cade, justement, ce que j'allais dire, j'avais très hâte de voir ce que ça allait donner sa première campagne de playoff pour voir un petit peu de quel bois il se chauffe. Ce qu'on a vu, il a fait une très belle saison régulière. Il est monté en puissance. Il a passé un palier. C'est devenu un All-Star indiscutable. Là, c'est les playoffs, c'est les grands rendez-vous. C'est important de voir comment réagit ce type de joueur pour voir à quelle carrière on peut s'attendre.
Mais pour
là,
l'instant, c'est pas dégueu.
Je pense qu'avec les deux premiers matchs, il confirme pas mal tous les espoirs qu'on a en lui. Il peut faire, c'est une superstar en fait, Cunningham, tout simplement.
Votre tendance sur cette série, déjà, ça sent le match 7. Ça peut. Ça y ressemble. Ça prend le chemin peut-être, Stephen.
Ouais. Je partirais sur 4-2 pour les Knicks, moi, quand même.
Ouais, 4-2 Knicks. Après, pourquoi pas un petit 4-3 avec un gros Game 7 au Madison Square Garden. On prend aussi pour le spectacle.
J'ai du mal à penser qu'on ira en 7. Je pense que les Knicks sont meilleurs par l'expérience, etc. Donc ouais, moi, je suis plutôt parti pour un 4-2 aussi.
Un match 7 au Madison Square Garden.
Je vous annonce que s'il y a un match 7, je pense que le 5 majeur joue 48 minutes.
Juste la prolongation derrière. On reste dans cette partie de tableau des playoffs. Celtics, Magic, les Celtics se sont imposés en étant accrochés. C'était presque un moment, la première fois qu'on avait un match à peu près accroché dans l'enchaînement. Je ne sais plus si c'était dimanche.
C'était dimanche. C'était OKC, Memphis et après Boston-Orlando.
Voilà. C'était dur un petit peu.
Donc on était content de voir enfin un match un petit peu accroché et Boston qui donc mène cette série 1-0 après cette victoire sur son parquet 103-86.
La puissance du collectif de Boston a fait la différence sur la durée du match parce qu'Orlando est à plus 1 je crois à la mi-temps.
Oui.
Parce que les deux stars du Magic font une belle première mi-temps. Franz Wagner et Paolo Banchero sont très bons sur les 24 premières minutes de la rencontre et après ils plongent un peu et surtout il n'y a personne d'autre.
Ils mettent 59 ou 86 points.
Ils sont tout seuls. Ils sont tout seuls. Je l'aime bien Corey Joseph et compagnie mais bon à un moment donné
c'est les playoffs quoi.
Ça a ses limites et puis Boston est une machine, ils peuvent se permettre qu'il y ait un ou deux mecs qui passent au travers. Porzingis fait un match minable, mais bon, quand t'as Peyton Pritchard qui toute sa vie en sortie de banc a mis des pantons et qui continue sur ce match 1, quand t'as Derek White qui est en feu à 3 points, ils ont filoché tous comme des gros cochons et tu peux te permettre d'avoir un petit Jalen Brown et un petit Jason Tatum sur la durée, c'est trop
là,
dur
ce
pour Orlando.
Les trois stars de Boston sont passés à côté et ils gagnent quand même le match plutôt tranquillement. Après, ça maîtrise quand même en deuxième mi-temps
c'est
le dernier quart temps.
C'est
là que tu vois
c'est trop fort.
La force collective.
Orlando, ils plongent. Ils peuvent pas. 48 minutes, c'est trop long pour eux. Surtout si t'as pas un mec à côté des deux autres. Les deux autres, ils vont pas gagner le match tout seuls. Hein. Ils sont très forts. Banchero est exceptionnel. Hein. Premier match de play-off face à Boston. Il fait un match énorme. Franz Wagner a un vrai problème depuis qu'il est revenu de blessure sur son tir à longue distance. À 3 points, il ne met plus un tir alors qu'avec l'Allemagne, il avait quand même une grosse paire de baloches. Il mettait des énormes tirs. Il allait totalement en travers sur le tir longue distance. Alors, il fait autre chose. Mais à 2, ils peuvent pas battre. Boston, c'est trop fort. En fait, c'est trop complet. C'est trop complet partout.
Il leur manque Jalen Suggs qui a beaucoup joué cette saison.
Oui.
Même si, ça ne changerait peut-être pas forcément la donne.
Honnêtement, ce serait intéressant parce que lui, il pourrait distribuer un petit peu. Et vraiment, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a que deux joueurs dans cette équipe depuis qu'ils sont revenus. Et c'est, je trouve ça un peu triste.
En plus, ils ont eu des runs où à un moment, ils en avaient un blessé, ils avaient Wagner blessé, ils sont revenus, ça marchait moins bien.
Ils ont pété Wendell Carter à un moment donné, qui a pas mis un pied devant l'autre. Mais parfois, ils ont des mecs qui peuvent sortir. Cole Anthony peut mettre de temps en temps, Black peut mettre quelques paniers. Mais là, tout le monde est passé au travers. Hein. La découverte des Celtics au premier tour, il y avait que deux mecs qui pouvaient répondre à ce niveau-là. Les autres sont passés au travers. Donc, à voir sur le match 2. Mais s'ils en prennent un, c'est bien.
Ça sent le petit 4-1.
Ouais, 4-1, petit gentleman sweep.
Je suis pas loin de penser au 4-0.
Ils sont en deuxième sur l'autoroute, là, Boston.
En plus, ils vont sûrement récupérer Knicks ou Pistons un peu plus éreintés. Voilà, c'est quand même les Boston.
C'est quoi la surprise en fait pour Boston? Tant qu'ils ne sont pas en finale de conf. Voilà, pour l'instant, j'ai rien à dire sur eux en fait. J'ai rien à dire sur eux.
En finale de conf, contre qui? Cleveland, peut-être. On attend ce choc. Cleveland qui a battu le Miami Heat 121-100.
Avec Ty Jerome, superstar.
Exactement, qui sorti de banc, excellent quand même cette saison. Fred. Miami, il faut toujours se méfier,
En fait, je trouve que cette victoire est un peu en trompe-l'œil, parce qu'à un moment, ils sont proches, et effectivement, Ty Jerome arrive et fait vraiment la différence. Il y a une dizaine de points, ils sont pas si loin que ça. Toutes les décisions de Spoelstra sont mauvaises, il fait des zones alors que les mecs sont en feu au shoot, donc je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix. Je pense qu'elle est un peu en trompe-l'œil. Alors oui, ils sont meilleurs, les Cavs, il n'y a pas photo, il n'y a pas de problème, mais 21 points, je trouve que c'est beaucoup. Et je pense que ça va jouer, je pense qu'ils en prendront au moins un à Miami.
Ce qui est surprenant sur ce match-là, enfin surprenant oui et non, c'est qu'on pensait que la force des Cavs intérieurs avec Jarrett Allen et Evan Mobley, finalement, ils ont été dans le dur face à Bam Adebayo, qui a fait un match énorme, Bam Adebayo. La problématique pour Miami, si jamais ils veulent espérer quelque chose dans cette série, il faut que Tyler Herro ne fasse pas un match correct. Il faut qu'il fasse un match d'exception.
Comme en play-in.
Et la problématique pour Tyler Herro sur cette match-up-là, c'est qu'il doit défendre. Parce qu'il y a Darius Garland et il y a Donovan Mitchell qui sont des garçons à qui il doit s'opposer. Et Tyler Herro, il ne peut pas être des deux côtés du terrain. Garland, Mitchell, ils ont été monstrueux sur l'adresse sur la première rencontre. Et Tyler Herro, c'est pas un défenseur, Tyler Herro. Donc il mange. Et Tyler Herro, il faut qu'il mette 35 pour que Miami espère quelque chose. Ça a été le cas en play-in où il a été fantastique. Là, si Tyler Herro, il fait 21, c'est pas un match pourri, 21. Mais c'est pas assez. C'est pas suffisant. Davion Mitchell est la belle surprise de Miami cette saison en sortie de banc. Il a été très bon.
Depuis 4-5 matchs.
Il a des cannes.
Et surtout que maintenant, il a changé de mentalité. Il va vers le panier.
Exactement.
Il provoque un petit peu.
Exactement. Mais ça va être un peu short stack quand même pour Miami.
Et je trouve que Miami, c'était parfait pour Cleveland pour parfaitement rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Parce que tu sais que tu peux pas y aller à 60% ou 70%. Tu dois aller à fond parce que tu sais que Miami, c'est un poison. Ils ont l'expérience. Il y a Spoelstra et tout. Et là, du coup, je trouve que c'est parfait. Parce qu'au moins, hop, tu vois, direct, concentré, focus. Et je pense que c'était parfait. Après, leur régulière, où ils ont quand même bien pu gérer tout au long. Parce que voilà, ils ont pris les rênes de la Conférence Est dès le début. Dès le mois de novembre, on a compris qu'ils seraient premiers de la Conférence Est. Là, au moins, pas de relâchement, direct dans le dur.
Mais sans Jimmy Butler, ça enlève un truc sur cet esprit de Miami. C'était nécessaire. C'était nécessaire, oui, on était à un point de rupture. Mais tu vois, dans l'esprit qu'on attend de cette équipe de play-off.
Et puis Wiggins, c'est pas Jimmy B.
Eh oui. Ouais. C'est pas
le leadership de Jimmy Butler, c'est pas un mec qui peut faire des bons matchs. Il peut faire des bons matchs, mais il peut pas lâcher une masterclass comme Jimmy Butler est capable de faire sur un match.
Il a pas cette capacité à se transcender dans les événements en fait. Il va être bon, il va faire ce qu'il fait d'habitude et effectivement c'est un très bon joueur, mais c'est pas Jimmy Butler. Clairement.
Et même pour Atkinson par rapport au coach, parce que Spoelstra reste Spoelstra, c'est très bien aussi pour Atkinson en termes d'ajustement etc. C'est un premier bon test d'avoir ce premier tour, je trouve. Kenny, voilà, vous l'avez compris. Contre Spoelstra, c'est un bon test.
Peut-être qu'il aura Doc Rivers au prochain tour. Là aussi, ça sera un bon test. Juste avant de parler de Pacers Bucks, 4-1 aussi, un petit
4-1, tranquille. Tranquillou. Ouais.
Pacers contre
Fred,
les Bucks.
Fred, il voulait dire 4-2.
4-2, moi.
Bon.
J'y crois, moi, à l'envie de Miami d'embêter tout le monde jusqu'au bout.
Écoute, c'est toujours un poil à gratter. On verra bien. Indiana, Milwaukee pour la dernière série à l'Est. Indiana s'est imposé 117-98. Yanis, tout simplement trop seul. Tout seul face à cette équipe d'Indiana qui est une bonne petite équipe. Fred.
C'est une bonne équipe. Hein. Solide, ils ont de la viande à envoyer.
Rotations solides.
Tout le monde défend mieux.
Tout le monde est sur la même longueur d'onde. Ouais, les rotations, c'est très bien, c'est propre. Ils savent ce qu'ils veulent faire en fait. Le ballon, ils bougent. Ils n'ont pas besoin d'un grand Haliburton pour gagner. Ils ont deux mecs, Miles Turner et Pascal Siakam, qui sont pas les superstars, mais les très bons joueurs.
Un des meilleurs duos d'intérieur de la ligue.
Ouais, hein. Qui ont été très forts. Et puis, ils peuvent se relayer. Aaron Smith, Miles Turner, Siakam, ça se relaye sur Giannis Antetokounmpo.
Et tu peux mettre de la pression sur l'extérieur. Nembhard était bon.
Quand ça sort du banc, notre ami McConnell et Bénédicte Mathurin, quand t'as deux mecs comme ça qui sortent du banc, eux, ils apportent quoi qu'il arrive. Mais il faut parler des Bucks, en fait. Donc. Mais qu'est-ce que c'est que cette équipe de merde?
Ah, c'est affreux. Hein,
pourtant, ils ont fait illusion sur la fin de saison.
Ils ont fait, oui, ils ont gagné les 8-9 derniers matchs. Oui.
Les deux juniors là, ont été bons. Porter Junior et Trent Junior ont été plutôt bons. Et quand ils sont bons, eux,
Mais bon.
Kevin Porter Junior, mec, achète-toi un ballon, va jouer tout seul.
C'est lui, c'est ce qu'il aime faire, lui.
Et qu'est-ce qu'on peut dire de Kyle Kuzma?
La Kuzma, il est ridicule.
La ligne de stats.
Attends, la ligne de stats, je vais vous la donner.
Zéro, il n'y a rien à dire, c'est zéro. Voilà.
21 minutes, zéro sur 5, zéro rebond, zéro passe et zéro turnover. Ça, c'est positif. Ouais,
c'est super pour lui, on est content. mais au-delà de sa performance qui est minable, l'attitude sur le terrain, mec, c'est un premier match de play-off. Le mec, on dit qu'il visitait, en fait. Il visitait la salle des Pacers. Ah, j'ai pratiqué pour visiter la salle. Ah, puis il marchait sur le terrain. Mais t'es honteux, mec.
Il avait quand même un bon ticket parce qu'il était proche du jeu.
Ah, oui, il était VIP, il l'a payé cher. Mais il a été honteux. T'as pas honte d'être dans cette équipe-là et de voir ton leader, Giannis Antetokounmpo, se démener, faire des matchs dantesques, être cuit au bout de 5 minutes parce qu'il fait tout de A à Z. Et toi, tu le regardes comme ça, gros, t'es minable. T'as pas envie un peu de donner du soutien à Giannis Antetokounmpo.
C'était les playoffs, de toute façon, quelque
part. Non, mais quand ça fait 3 ans que tu joues au Washington et que t'es en vacances début avril, elle dit attends, c'est bizarre ça. Il y a encore des matchs à cette période-là de l'année.
Il y a le spring break là.
Mais sérieux, puis cette équipe-là, le petit Ryan Rollins, c'est super cool, mon grand. Mais titulaire au Bucks, Ryan Rollins, pour un premier match de playoffs. Bah, foutez-moi le camp.
Yannis doit péter un câble,
foutez-moi le camp. Yannis, il va le dire, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Profitez-en, je pense que c'est les derniers matchs de Bucks.
Le coaching, c'est Doc Rivers, donc bon. Mais il fait aussi avec cette équipe-là, elle est tellement mal construite.
Mais là, c'est pas Doc Rivers, quoi. C'est Dick Rivers, mec, qui coach.
Il a la malade.
J'ai juste une question. Tu peux me traduire Dick Rivers en français?
Dick Rivers, c'est la bite rivière.
Ça vous fait rire, Frédéric Weiss, dès qu'on parle.
Désolé, l'écrivain, ça me toujours fait rire.
Ah, c'est minable. Ce nom-là. C'est minable.
Il peut y avoir une réaction des Bucks ?
Oui. Alors, moi, le seul truc qui me laisse espérer, c'est Damien Lillard qui s'est chauffé avec Haliburton en disant ah, vous voulez apprendre comme ça ? Attendez que je sois de retour. Il faut que ce mec-là revienne. Alors, Damien Lillard, ça n'a pas très bien fonctionné avec Milwaukee. Mais on connaît les antécédents du mec sur un match de play-off. Et que lui...
Il ne faut jamais les enterrer. Exactement. Les deux là, sur
lui, Lillard et Antetokounmpo, ce sont deux superstars, deux mecs qui ont des égos, des mecs qui ont déjà gagné des séries de play-off, dont un qui est champion NBA. Damien Lillard, c'est un mec qui marche à l'ego. Je ne suis pas sûr qu'il ait kiffé. Et s'il rejoue au basket, je pense qu'il va vouloir fermer des bouches. Donc, dans quel état physique, je ne sais pas.
Mais est-ce que ça va tenir sur toute une série?
Non, mais Lillard, il ne va pas jouer depuis un mois et demi et il ne va pas arriver à tout changer non plus.
Bah, il a chuté 15 points à 3 points. Ouais, c'est pas grave.
Il est limité physiquement quand même.
Tu préfères Ryan Rollins?
Non.
Merci.
Oui, Damien, il est
capable. Pas hésité, en fait.
Lillard est capable de revenir et de coller 40 points, mais faire là sur toute cette série.
Et puis cette équipe, elle est has-been, en fait. Les Bobby Portis, les Brook Lopez, je peux plus me les voir, en fait.
Ça peut aller très vite dans la série.
Ça va du coach, entre le coach, les joueurs, tout ça. Je trouve qu'il faut tout changer là-bas.
Ouais. Ça peut aller très très vite la série au final. Tout à l'heure, on se posait la question un peu avant de commencer l'émission, est-ce que ça peut aller loin un Game 7? Non, pour moi, un 4.
Attention, Yannis,
je me dis que cette série, elle peut ressembler à rien.
Je suis pas étonné.
C'est-à-dire que d'un match à l'autre, ça peut être les extrêmes totales. Là, tu peux avoir un plus de 20 Milwaukee. Tu sais pas d'où ça va sortir.
Il suffit que Brook Lopez mette 5 tirs à 3 points, que Bobby Portis mette 4 tirs à 3 points, que Yannis fasse un match de mi-temps, ils prennent un match.
Oui, c'est ça. Mais en fait, Yannis, il va en gagner un tout seul. Mais bon, ça arrive quand même.
Parce que Indiana, c'est
le Yannis en prend un tout seul. Lillard arrive, ils en prennent un deuxième.
Ça fait 4-2.
Mais non, mais je suis d'accord. Sauf que t'es à la maison. Il te reste un troisième match à la maison.
Parce qu'Indiana, c'est une belle équipe.
Déjà pour
qu'ils sont pas, ils peuvent pas être un peu soft sur une série de playoffs aussi. Voilà, quand t'as l'expérience.
Moi, je les ai pas vus soft. Indiana.
Alors que, évidemment, moi, c'était l'image que j'avais d'eux et je les ai pas vus soft du tout.
Non, j'ai même vu Thomas Bryant aller au Turbin. Donc, c'est pas sa qualité première.
Ils ont l'expérience aussi des playoffs l'année dernière. C'est quand même finale de conf. On a quand même souvent tendance à l'oublier parce que le parcours était un peu bizarre.
L'année dernière,
le parcours est bizarre et pas mal de blessés à l'est. Mais c'est des finalistes de conf.
Je sais pas s'ils ont fait les Pacers, mais ils ont trouvé un petit boost parce qu'ils sont rentrés après
la défaite contre les Spurs et ils sont partis plein badin.
La deuxième partie de saison après l'intermède Paris.
Haliburton a retrouvé de l'adresse, il était en difficulté.
Le Paris break leur a fait du bien. Je sais pas ce qu'ils ont fait, je sais pas dans quelle boîte de nuit ils sont allés.
Ce qui se passe à Paris reste à Paris.
Exactement.
Félix.
Petit prono.
Petit prono, moi je vois bien 4-2 pour les Pacers.
Ouais. Ouais. C'est bien.
4-1 Pacers, allez, on y va.
Ah ouais, lui, il chie sur les Bucks.
Dis le mec qui a passé quand même 3 minutes à.
Moi, je te dis que ça sent le match 7.
Bah, je sais pas, en fait, je sais même pas quoi dire de cette série.
En fait, j'arrive pas à analyser cette équipe. Je ne sais pas ce que ça vaut, les Bucks, vraiment.
Bah, 10 matchs 7.
Voilà. Eddie Green, il est là, il envoie 10, ouais, il envoie 10 catapultes à 3 points, il est content.
Mais même Disneyland, cette équipe.
7 matchs, c'est pas bon pour la santé mentale de Stephen, hein, par contre, parce que là, vu qu'il est au bout du rouleau devant cette équipe, s'il y en a 7, on va le perdre.
Voilà, après, ça, c'est pas l'équipe qui supporte.
J'ai pas d'équipe qui supporte, là. Tout le monde est en vacances.
Oui.
Tu as réfléchi ?
J'ai réfléchi, oui, 4-2.
Ok, merci.
Pour qui ?
Je suis fou, mais pas de là à dire que les Bucks vont s'imposer quand même.
Allez, direction l'Ouest, messieurs, c'est Basket Time, votre rendez-vous hebdomadaire en podcast sur RMC.